Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, en ce 3 février, c'est la fête de la bienheureuse Marie Rivier. Marie Rivier. Vous allez dire que je dis toujours que ce sont des gens extraordinaires, mais ça l'est, vous allez voir, si vous restez à l'écoute et si vous serez enchanté de connaître Marie Rivier, la fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, que l'on connaît bien ici au Québec. C'est vraiment une femme apôtre, c'est comme ça qu'on l'a appelée, une femme apôtre. C'est un prophète, et pourtant, c'était une infirme. Et oui, qui était partiellement guérie, miraculeusement, dans son enfance, mais elle se traînait par terre, enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans. Elle était vraiment née dans des conditions très difficiles. Marie Rivier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ses sœurs, Jeannette Chagnon, de son nom de religieuse, sœur Jean Théophane, la supérieure générale, une Québécoise, bien que ce soit une communauté fondée en France, qui a écrit « Notre époque a grand besoin de témoins de la transcendance ». Tom, c'est vrai. Hein? C'est ce qu'on essaie de faire ici à Rencontre spirituelle, des témoins de la transcendance. C'est ce que j'essaie de vous raconter tous les jours, car notre époque a grand besoin de témoins de la transcendance. Et elle ajoute, sœur Jeannette Chagnon, « Chez Marie Rivier, tout réfère à Dieu ». Tout ne s'explique que par lui, et elle demeure une lumière dans la nuit des temps. Et pour les petits et les pauvres qui ont besoin de signes, elle demeure une espérance. Et tout en elle renvoie à Dieu, à Jésus-Christ, à son évangile, à la Vierge Marie, mère de miséricorde pour tous les hommes. C'est Mère Rivier, ça. Marie Rivier. Mais quelle femme, hein? C'est le père Rémermet que j'ai bien connu à Paris, un rédemptoriste qui dit « Grande infirme presque dès le berceau, par suite d'un accident, Marie Rivier ne marche qu'à 6 ans, et d'abord avec des béquilles, et toute sa vie elle restera une handicapée. Et sa destinée normale, être la petite infirme souriante, et à charge de tous. Mais non, ce sera pas ça. Les handicaps sont faits pour être surmontés, dit le père Rémermet. » Rémermet, ça s'écrit R-E-Y, trait d'union, M-E-R-M-E-T, hein, Rémermet. Et alors, il a écrit de nombreux ouvrages, plusieurs d'entre vous en ont lu, j'en suis sûr. Alors, il dit bien, hein, les handicaps sont faits pour être surmontés. Un feu intérieur habite cette petite Sévenole. Sévenole, c'est-à-dire une petite fille qui est née dans la région de France où il y a beaucoup de protestants. Sévenole. Les Cévennes. Et ça, ce feu intérieur la met debout. Il rayonne dans la flamme de ses yeux puis sa parole. C'est une fille à porter le monde. Une de ces charismatiques, dirait-on, annoncées par Joël dans l'Ancien Testament. Quand il dit, « Je dirai Dieu sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et elles seront prophètes. Elles seront prophètes. » Il a écrit d'ailleurs un très beau livre, le père Rémermet, qui s'appelle « Vos filles prophétiseront ». Il a publié ça il y a 20 ans. Très beau livre. Oh, comme il dit à un moment donné, elle meurt debout, dans la fin de son zèle, et c'est vrai, dans un sens. Une femme d'un autre temps, ça c'est sûr, une femme pour notre temps encore. Ah oui, elle est toujours pour nous. Vous allez voir, c'est une femme merveilleuse, merveilleuse. Elle était baptisée sous le nom de Marie. C'est la troisième enfant, hein, d'un couple qui a vécu, comme je vous ai dit, en France. C'est la fondatrice donc des Sœurs de la Présentation de Marie. Elle est née à Montpezat, un petit village, du département de l'Ardèche, donc, le 19 décembre 1768. Et à la suite d'une chute qu'elle a faite en bas âge, on l'avait placée un peu trop haut sur un meuble. Elle est devenue infirme. Et sa mère, Marianne Combe, C-O-M-B-E, la porte chaque matin, chose étrange, c'est très étrange, dans la chapelle du petit village, là, de Montpezat, il y a à peu près 1000 habitants aujourd'hui, là. Et puis, elle l'assoit au pied d'une ce qu'on appelle une piéta, vous savez, une vierge des douleurs, là, une vierge assise avec le corps de son grand garçon, son fils, sur les genoux, le cadavre de son fils, Jésus. Et pendant les 4 ans qu'a duré ce pèlerinage quotidien, Marinette, c'est comme ça qu'il l'appelle à ce temps-là, bien prie, Elle prie sans se lasser, avec une ferme espérance au cœur. Et elle se dit intérieurement, cette toute petite fille, aujourd'hui la Sainte Vierge me guérira. Puis un jour, elle n'a pas encore 5 ans, elle se sent fortement pressée de consacrer sa vie à faire l'école aux enfants, pour leur faire connaître et aimer Jésus-Christ, si Dieu la guérit son handicap physique. Et ce désir devient une promesse qu'elle fait à la Mère de Dieu, à la Sainte Vierge, en disant, Sainte Vierge, guéris-moi, et je te ramasserai des petites filles, et je leur ferai l'école, et je leur dirai à te bien servir. C'est un enfant, ça naît déjà dans son cœur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des aspirations comme ça très jeunes. Beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, surtout autrefois, mais je suis sûr qu'il y en a encore aujourd'hui. Et Notre-Dame entend la prière, et le 8 septembre 1774, le 8 septembre, c'est la nativité de la Sainte Vierge, le Noël de la Sainte Vierge, si vous voulez. Alors elle accorde la guérison, une guérison partielle. Et fidèle à l'appel entendu, la petite Marie commence à réunir les enfants du village sur la terrasse paternelle. Elle leur enseigne le catéchisme. Elle raconte les histoires, puis fait dire les prières que sa mère lui a apprises. Elle est pensionnaire au monastère de Notre-Dame de Pradelle, où des sœurs assurent l'éducation des jeunes filles. Alors elle demande son admission dans l'ordre, mais à cause de sa santé, plus ou moins curieuse, c'est précaire, elle est infirme un peu, alors le conseil la refuse. « Eh bien, dit-elle, puisqu'on ne veut pas de moi. On veut pas me laisser entrer au couvent, mais je ferai un couvent moi-même. » Elle a 17 ans. On est en juin 1786. Marie Rivier revient au village natal avec la permission des autorités civiles, puis l'accord d'abord plutôt sceptique de M. le curé. Elle ouvre une première école à cet âge-là, imaginez. Son désir de fondation ne la quitte pas, par exemple. Elle veut fonder. Et elle forme alors le projet de réunir en communauté des jeunes filles de Montpezat, de son village. Elle veut les préparer. Elle veut les aider à vivre en chrétienne. Elle espère que certaines aspireraient à un don plus total. Cependant, c'est pas à Montpezat qu'elle va fonder sa congrégation. Ben oui, un prêtre de Saint-Sulpice, un sulpicien, comme on dit, M. Pontagnier, qui était chassé du grand séminaire de Viviers par suite de la Révolution française, les troubles, on est en pleine Révolution, se cache à Thuette, chez une de ses tantes. Et c'est là que Marie Rivier a fait la connaissance de ce prêtre qui est un homme de Dieu. Et en juin 1793, donc en pleine révolution, elle a 24 ans, mais il va devenir son directeur spirituel. Ça va être un conseiller très sûr aussi pour la communauté qui va commencer là. Simplement, puis avec conviction et force, Marie Rivier lui expose ses projets, puis ses désirs. Et l'année suivante, il déclare, lui, à sa fille spirituelle, au nom de Jésus-Christ, venez, venez à Thuette. Telle est la volonté de Dieu. Je ne puis en douter après y avoir mûrement réfléchi, et c'est là que la Providence vous appelle pour faire le bien. Alors la bienheureuse Marie Rivier reçoit cet appel comme un ordre de Dieu, mais l'autorité ecclésiastique du diocèse, toujours prudente, les autorités, puis avec raison, heureusement, ne juge pas très bon de donner l'autorisation demandée pour la fondation. Qu'est-ce qu'on trouve dans les textes de l'époque? On trouve que c'est écrit « louable, bonne volonté, mais à l'heure où toutes les maisons religieuses viennent d'être fermées, voilà une entreprise ridicule et téméraire. » C'est vrai que ça semble absolument ridicule, fondée en pleine révolution alors que les gens se font massacrer, les catholiques sont persécutés de façon abominable. Alors après des hésitations bien légitimes, le vicaire général finalement qui a bon cœur, vicaire général du diocèse de Viviers, il donne son approbation. Et le 21 novembre 1796, en la fête de la présentation de Marie au Temple, Marie Rivier, qui a presque 28 ans, puis ses 4 premières compagnes, se consacrent à Dieu. Et promet de travailler à l'instruction chrétienne de la jeunesse. Et dans ce temps-là, les couvents sont dissous. Là. Il n'y a plus. Les religieux ont été dispersés, les églises sont fermées au culte. C'est la grande persécution. Marie Rivier fonde quand même ce qui paraît impossible. C'est donc sous le régime même de la terreur, en pleine terreur, alors que tout semble sombrer sous l'intolérance de Robespierre, que Marie Rivier, tel un prophète, comme je vous ai dit au début, se lève pour suivre l'appel qu'elle a entendu au tréfonds de son cœur. Elle est résolue à se mettre au service de Dieu pour l'œuvre qu'il veut accomplir en elle et par elle. Elle est docile à l'Esprit-Saint. Et elle s'engage radicalement dans un chemin rude. Elle est guidée par la foi, par l'espérance et par l'amour. Les trois grandes vertus théologales. Dieu la rend capable d'attirer et de recevoir des jeunes filles qui partagent la même grâce de vocation et qui sont appelées à vivre la même aventure spirituelle. C'est toute une aventure, hein? Laquelle, au juste, l'aventure? C'est de travailler tout simplement avec un zèle ardent pour le service de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'on réponde à l'amour de Dieu, j'aimerais mieux dire ça, moi. Et pour le salut des âmes, quoi, le salut des âmes? Pour la libération des âmes, pour qu'ils soient libres et joyeux, les gens. Et en somme, l'école sera le moyen privilégié pour annoncer Jésus-Christ aux enfants puis aux jeunes, avec une préférence marquée pour les pauvres. Alors, pour prolonger l'instruction chrétienne puis étendre la connaissance de Jésus-Christ, la fondatrice, Marie Rivier, elle établit quoi? Pourrait faire ça aujourd'hui, les assemblées du dimanche et l'œuvre des retraites. Des lieux d'évangélisation et de prière, ça. Et outre l'école puis les œuvres directement spirituelles, mais les sœurs de la présentation de Marie sont au service des malades et des plus pauvres, spécialement des orphelines. Et dès 1798, la présentation, sa congrégation, qui s'appelle la présentation, se répand dans les villages voisins. Et puis, au début du 19e siècle, de 1802 à 1810, la bienheureuse Marie Rivier ouvre 46 écoles dans le diocèse de Viviers. Puis à partir de 1811, la congrégation s'étend au-delà des limites de l'Ardèche, là. Et puis, bientôt, la maison principale est trop petite. Et puis, là, en 1813, à 45 ans, Marie Rivier, avec une assurance extraordinaire, eh bien, elle... étonne la communauté en disant « Dans 6 ans, nous serons dans un couvent superbe. » Puis là, à l'âge de 51 ans, en 1819, en effet, l'ancien couvent de la Visitation de Bourg-Saint-Andéol devient la maison mère. Elle dit « Je n'ai jamais cherché d'argent, et par la prière, il en est toujours venu. » Et en souriant, elle monte une statuette de la Sainte Vierge. L'année suivante, là, il y a les règles qui s'installent, l'Institut est doté là, d'une règle stable. La congrégation s'étend, elle s'affermit. Mais le secret de sa force, c'est le feu de l'amour. Ça revient toujours. Elle est brûlante d'amour, cette femme. C'est la source d'un zèle ardent, fondée sur la prière, hein, et accompagnée d'une humble prudence. Elle n'est pas folle, elle est loin d'être folle, puis elle a une grande ferveur, qu'elle répand dans toute sa communauté. Hein. Elle sait préparer ses filles à leur mission d'évangélisation. Elle sait les disposer, les sœurs, à aller n'importe où, là où elles sont envoyées, là où il y a des âmes à sauver. Et elle dit, « Combien je désirerais que le monde se convertisse et que notre congrégation porte le feu de l'amour de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ partout. » Et ce rayonnement de l'amour n'a pas de limite dans l'espace. Il n'en a pas non plus dans le temps. Elle dit, puisse le zèle de la gloire de Dieu nous miner et nous consumer jusqu'à la mort. C'est Pie IX qui l'a appelée la femme apôtre. Ce sont des apôtres de Jésus-Christ. Puis la force, la profondeur de leur apostolat amène le développement rapide. Et c'est extraordinaire. Puis, tout ça, ça se répand jusque chez les calvinistes en Suisse. Puis en 1838, l'année de la mort de Marie Rivier, bien, la congrégation va compter 141 maisons. Imaginez, elle a pas même 70 ans à ce moment-là. C'est toutes des oasis de prière et d'apostolat qui sont demandées par les responsables des diocèses. Alors des projets, bien Marie Rivier en a de grands. Un jour, dit-elle, mes filles traverseront les mers. C'est une parole prophétique qui tarde pas à se réaliser. En 1853, donc une quinzaine d'années après sa mort, les sœurs vont franchir l'Atlantique pour venir ici. Elles vont exercer leurs ailes au Québec et plus tard aux États-Unis puis dans tout le Canada. La présentation devient missionnaire. À l'aube du 20e siècle, il y a une période sombre qui s'élève sur la congrégation, vous le savez. Hein? C'est les écoles qui reçoivent leur arrêt de mort en France. C'est celui qu'on appelle le petit père Combe, Émile Combe, qui est président de la France, un anticlérical acharné. Alors, on vote une loi en juillet 1904 qui interdit l'enseignement de tout ordre et de toute nature à tout congréganiste du fait de son costume et de ses vœux. Alors, c'est l'abolition des congrégations religieuses, quoi. Ça répand les congrégations religieuses d'un bout à l'autre du monde. Les chartreux doivent s'en aller aussi bien que les sœurs. Il y a seulement les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul, je pense, qui ont pu rester. En tout cas, les congrégations autorisées, l'Institut de la présentation est reconnue légalement depuis 1830 par une ordonnance royale, mais les congrégations autorisées doivent être fermées dans un délai de 10 ans. Et les congrégations enseignantes dissoutes et liquidées tout de suite, là. Défense leur est faite de recevoir de nouveaux membres. En 1914, 10 ans après cette loi, il restera en France une seule école tenue officiellement par la Congrégation des Sœurs de la Présentation. Et pour déjouer la loi, bien, les sœurs, en grand nombre, acceptent d'être sécularisées. Elles deviennent donc des laïcs aux yeux de la nation française. Et c'est la condition indispensable pour continuer à tenir des écoles. Et à cette même période, celles qui ont préféré l'exil, quoi, à toutes ces expulsions puis à la sécularisation, mais partent pour le Canada, pour le Québec, pour les différentes parties du Canada aussi. D'autres pour l'Angleterre, pour l'Espagne, pour l'Italie. Et cet apport en sœurs, en personnel, quoi, ça va amener une grande extension des œuvres de cette congrégation aux États-Unis puis dans l'Ouest canadien. Et elles vont ouvrir en 1903, d'ailleurs, la première mission des Sœurs de la Présentation à Duck Lake, en Saskatchewan. Puis là, la congrégation, menacée de dissolution en France, s'étend à l'étranger. Elle est reconnue en cour d'appel comme association charitable en 1907. Elle va être sauvée, mais à partir de cette date, c'est à ce titre seulement qu'elle va bénéficier de la reconnaissance légale en France, c'est tout. Et un décret de 1966 seulement va rendre à titre officiel son caractère à sa de congrégation enseignante. Il était temps, en 1966 seulement. En 1947, la congrégation, devenue un grand arbre, est organisée en province, là. Alors, il y en a 4 au Canada, 2 aux États-Unis, 1 en France, 1 au Portugal, il y a l'Espagne, etc. L'expansion missionnaire, donc, se développe à partir de la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion donnée par l'Église, hein? L'Église qui refait tout son esprit missionnaire. Et aujourd'hui, ben, les Sœurs de la Présentation de Marie témoignent de la parole de Marie Rivier, leur fondatrice. Cette parole prophétique, elle témoigne partout, ou à peu près. Elles ont traversé, survolé tous les océans pour porter la connaissance de Jésus-Christ sur 4 continents, en Europe, en Amérique, en Afrique, puis en Asie, hein? Elle travaille à faire connaître puis à aimer Jésus-Christ avec un zèle qu'elle voudrait aussi brûlant que celui de leur mère Rivier. Oh, ce qui n'est pas toujours facile, vous verrez. Marie Rivier, cette femme étonnante, est tellement de notre temps. Elle a un zèle d'apôtre, on dirait qu'elle est toujours vivante aujourd'hui. C'est une femme moderne, post-conciliaire, comme on dit aujourd'hui, d'après le Concile Vatican II, quoi, avec tout le modernisme d'aujourd'hui. Elle a un sens profond de Dieu, un amour de Jésus-Christ puis des pauvres. Puis elle a un désir du silence puis de prière. Tout ça, ça transcende toutes les modes puis les années. Aujourd'hui encore, elle a son mot à dire au monde en quête de bonheur et de salut. À tous les jeunes aujourd'hui puis les moins jeunes qui sont assoiffés de vérité puis d'avenir aussi. Alors on va voir plus à fond et plus en détail ce qui en est, grâce à un texte d'un dominicain, le père Lassus ou Lassus. L-A-2-S-U-S. De toute façon, pour ma part, moi, c'est avec ce dominicain merveilleux que je crois à la grâce de ceux et celles qui ont reçu de Dieu la mission d'être dans l'histoire des hommes et des femmes, les instigateurs, puis les instigatrices, puis les modèles d'un certain art de vivre le Christ. Si ces gens-là se manifestent avec une taille puis une allure qui sont pas celles de tout le monde, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont surdoués. Les saints dont je vous parle, c'est pas parce qu'ils sont surdoués, non. Il y en a qui sont pas brillants. Mais c'est bien parce que Dieu les destine, puis ils répondent à cet appel à illustrer en grand, dans l'Église, là, un certain aspect de la grâce du Christ qui prend toutes sortes toutes deux facettes. Ceux qui se sentent appelés à devenir leurs disciples, à ces saints, à ces gens extraordinaires, puis à leur façon, à leur mesure, leurs imitateurs, ils doivent puiser à pleine main dans la surabondance de la sainteté de ces personnes. C'est comme cela que les gens qui veulent suivre Marie Rivier, les femmes-là, ben elles peuvent réaliser leur identité, puis elles trouvent leur bonheur. Mère Rivier, fondatrice de la congrégation de la Présentation de Marie, est fantastique. Je crois, dit le père Lassus, je crois avoir découvert son secret, son visage du dedans. Je la vois comme une copie de Jésus-Christ, une transparence très pure de celui qui nous est le sacrement de la miséricorde du Père. Je la vois comme une embrasée du feu qu'il est venu porter à la terre. Vous savez, Jésus qui dit « Je suis venu porter le feu sur la terre ». C'est dans l'Évangile. Elle vit, ça c'est sûr, mais avec quelle intensité. À en laisser tout pantois, non seulement les petits et les pauvres auxquels elle a consacré son existence, mais encore tant de personnages importants. Rien ne l'intimide, pourtant elle est handicapée. Rien ne la trouble, rien ne l'arrête. Cependant, à y regarder de près, on voit bien qu'elle ne vit plus. Mais le Christ seul qui l'habite la possède et agit. Et bien sûr, c'est pas l'œuvre d'un jour, c'est en suivant Marie Rivière la trace que nous pouvons admirer en elle l'action de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui la travaille, qui la burine, comme on dit, puis il la configure au Sauveur Jésus-Christ. Il fait d'elle, on peut dire, le sacrement de la pitié de Dieu, de la tendresse de Dieu. Il faut avouer que depuis sa toute petite enfance, elle est très bonne, puis elle est à bonne école aussi. Cette école, c'est celle de la souffrance. Celle de cette femme de la chapelle de Montpezat, la Pietà. Les 4 années de sa vie, de 2 à 6 ans, passées en grande partie derrière l'autel de la chapelle des pénitents du village. Ça a une immense importance pour la suite de son aventure, parce que Marie Rivier, enfant, un enfant qui se déplace en rampant sur le dos à cause de son infirmité et qui se cache sous le lit de la cuisine, eh bien, elle est là tous les jours que Dieu fait aux heures du matin. Elle est assise sur une couverture face à cette statue, à cette femme aux grands yeux éplorés qui tient dans ses bras son enfant mort, son grand garçon. Et sa mère la porte là en désespoir de cause. Elle espère d'un fol espoir la solution miracle. Et Marie aime ce pèlerinage quotidien. C'est curieux, hein? Elle dit « C'est aujourd'hui que la Sainte Vierge me guérira. » Et la voici qui invective parfois. Elle attend que la Vierge se manifeste et manifeste sa bonté. Elle lui fait des promesses, les unes pleines de naïveté. Elle lui dit « Je te ramasserai des petites filles, je leur ferai l'école, tu sais. » Elle est déjà une flamme de feu. Dans la solitude de cette petite fille derrière l'autel de son village, Marie Rivier regarde, elle regarde encore, elle écoute. Elle a ses yeux d'enfant s'agrandissent. Ils deviennent immenses, jusqu'à ce qu'ils pénètrent enfin à l'intérieur de ce Fils de Dieu détruit et de sa mère qui interpelle les témoins de ce drame épouvantable. Et l'enfant voit bien qu'il s'agit d'une folle histoire d'amour pour la libération de ce pauvre monde. Et Marie Rivier saisit déjà, toute jeune, ce qu'il peut en coûter de sang et de larmes pour libérer la terre, pour transfigurer la terre, transformer le monde. Et c'est à ce moment que dans cette âme d'enfant de 6 ans se dessine ce que nous pourrions appeler la spiritualité de Mère Rivier. Elle saisit Jésus-Christ. Elle comprend qu'il faut sauver le monde et en même temps, elle entend l'appel de Jésus. L'appel de Jésus, qu'il faut être pour lui une humanité de surcroît, en laquelle Jésus va continuer son mystère, le mystère pascal de don amoureux puis de résurrection. Ce qui est certain, c'est que Mère Rivier, elle a la vocation. la vocation à un amour exceptionnel. Un amour qui ne connaît que le désir des amoureux, ce désir des amoureux qui est de vivre avec leur amour dans le secret. C'est bien vrai que sa mission ici-bas est de dire Dieu, de porter la bonne nouvelle aux pauvres et de former celles qui la porteront avec elle, mais elle va l'accomplir d'autant plus parfaitement qu'elle habite au fond de son cœur. Vous savez, on parle de méditation transcendantale et de toutes sortes de méditations. Ça existe dans l'Église catholique. Voyons donc, c'est pas nécessaire d'aller chercher ça ailleurs. Et elle le pratique. Elle habite au fond de son cœur avec Dieu. Elle converse avec son Dieu au fond de son cœur. C'est Jésus qui disait, « Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons à lui. Nous y ferons notre demeure. » Dieu n'est pas au loin, il est en nous. On la voyait toujours recueillie, et comme en prière, écrit-on d'elle, si absorbée parfois qu'elle n'entendait rien de ce qui se passait autour d'elle, quoi qu'on l'appelât à haute voix. C'est une sœur qui dit ça, qui l'a connue. Ça signifie pas qu'elle était éloignée des personnes, des gens, puis de leur joie, puis de leurs épreuves, puis de leurs besoins. Au contraire, Marie Rivier, cette mystique, est très réaliste, et son silence intérieur lui permet d'avoir un regard de sagesse, un regard profond là, qui va jusqu'au fond des êtres puis des événements. C'est facile donc de comprendre pourquoi elle insiste si fort auprès de ses filles sur l'importance de cette vie du dedans, de ce regard intérieur là, qui illumine l'existence. Elle disait « travailler par le dedans », c'est beau ça, « travailler par le dedans ». Elle ajoutait le premier de nos ouvrages, c'est l'ouvrage du cœur. Elle ajoute, il faut en venir à cet esprit de prière continuelle de sorte que vous soyez hors de l'oraison comme à l'oraison. Je vous invite à lire de temps en temps le chapitre 20 du premier livre de l'imitation de Jésus-Christ. Je répète, le chapitre 20 du premier livre de l'imitation de Jésus-Christ intitulé « De l'amour, de la solitude et du silence ». Ce chapitre qui a enchanté mon enfance, moi. Prenez, dit-elle, prenez très à cœur le silence du dedans et du dehors, et vous avancerez à pas de géant. C'est là le secret. Elle écrit dans le même sens à sœur Marie-Paul, il faut vous faire une solitude de votre propre cœur et n'en point sortir. Cette solitude n'empêche pas, dit-elle, que l'on vaque aux fonctions de son état. Quand on habite dans cette solitude, on est bientôt solidement intérieur. Oh, mes enfants, que je vous souhaite cette solitude. Il faut noter toutefois qu'un tel attrait pour la vie du dedans le s'explique chez Mère Rivier par la découverte, derrière l'autel justement, de cet homme détruit dont je vous ai parlé, ce Jésus sur les genoux de sa maman, que lui présente justement Marie, la mère de compassion. C'est Jésus le sauveur. Oui, Marie Rivier a vu Jésus, il est devenu, on pourrait dire, la lampe de sa route. C'est Jésus qui dit « Je suis la lumière ». Lorsqu'elle écrira à ses filles sur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sera l'écho d'une expérience personnelle. Oui, elle a vu Jésus-Christ, et une lumière joyeuse a envahi son âme. Lui seul, désormais, l'intéresse. Oh, elle dit une chose, c'est tellement beau ce qu'elle écrit, ce qu'elle a déclaré. Les étoiles ne m'attirent point. Je veux voir le soleil. Elle ajoute, de quelque côté que je tourne le regard, je ne vois rien qui me contente si je n'y aperçois quelques traits de ta beauté. C'est toi seul que je cherche. C'est toi qui fais toutes mes délices. Montre-moi ton visage. Et je suis alors absolument comblé de bonheur. Le Christ l'a rencontré dans la désolation du Vendredi Saint, c'est sûr. La petite Marie Rivier, on l'a vu, a été profondément touchée, car c'est bien là le plus éloquente expression de l'amour. C'est l'accomplissement du don total qu'est la mort de Jésus. Jésus crucifié et anéanti est désormais extrêmement cher à son cœur. Alors on la voit parfois à ses pieds à genoux, une heure durant, elle étreint le bois de la croix, elle verse même des larmes. Et la Semaine Sainte est chaque année sa grande semaine débouchant en plein triomphe de la miséricorde au matin de Pâques. Et tout au long du carême, qui commence dans quelques jours, hein, tout au long du carême, les 40 jours glorieux, là, elle est comme ça. « Oh, comme j'aime ce temps, dit-elle au sujet du carême. Il me semble toujours que Jésus-Christ est là qui m'apparaît. » Qui va nous parler du carême? On parle toujours du ramadan, mais on parle pas beaucoup du carême. Hein? Moi, je vais vous en parler. Elle fait, Marie Rivier, elle fait de ce temps de carême son paradis. Elle se promène à travers les mystères de sa vie, la vie de Jésus, comme à travers la pathétique histoire d'un amour qui n'a rien de volage. C'est infiniment sérieux pour elle. Et à propos de Noël, elle dit « Cette nuit a toujours eu tant de charme pour moi. Oh, ce moment de minuit me pénètre de sentiments si vifs et si tendres à la fois qu'il me presse. » Puis le jour de la présentation de Jésus au temple, elle dit « Cette fête m'étouffe par les désirs ardents qu'elle excite en moi de me sacrifier avec Jésus. » Hein, de s'offrir au temple, de s'offrir. C'est ce qu'on fait à la messe. Hein? Mettez votre âme sur la patène quand c'est offert. Nous serons transformés en Jésus. Nous aurons son regard, les battements de son cœur dans notre cœur. Elle le voit, elle, dans ce mystère, tout dépossédé de lui-même, ne respirant que pour la gloire de son Père et pour notre salut, et habité par un cœur de feu. Hein? Cette présentation de Jésus touche Mère Marie Rivier. Elle se sent emportée dans cet élan de Jésus-Christ. Elle voit bien déjà que sa vie, celle de ses filles, est et sera dans le même sens. Cette vocation, c'est donc celle-là même du Christ. Mère Marie Rivier entend clairement l'invitation apportée avec lui et en lui l'histoire tourmentée des hommes, pour la libérer, cette histoire, pour la transfigurer, cette histoire des hommes et des femmes de la terre. Et son cœur va devenir, très rapidement, aussi vaste que le monde. Ce sont les enfants qu'elle veut tout d'abord amener à Dieu. Comme on devrait le faire tellement aujourd'hui, nos pauvres enfants abandonnés. C'est à ces enfants, en ces jours de la Révolution française, où toutes les paroisses souffrent de façon épouvantable, qu'elle veut révéler les merveilles de l'amour. À 4 ans déjà, comme on le sait, elle a eu un tel rayonnement au tel de tous, garçons et filles. Elle dit, je te ramasserai des enfants et je leur dirai de te bien aimer. C'est ça qu'elle a dit à la statue de la Pietà, à la Vierge. Je me voyais entourée d'une troupe d'enfants, dit-elle, à qui je dirai la leçon, à qui je ferai le catéchisme. Et cette idée me charmait. Et dès cet instant, l'idée des écoles ne s'éloigna guère de mon âme. Un mouvement secret me portait à me dévouer à cette œuvre d'une manière comme irrévocable. Puis là, à regarder cette Pietà là, de Montpezat, son village, la petite Marie Rivier a appris la valeur d'une vie, d'une seule vie. Elle dit la chose la plus belle, qui m'a toujours hantée depuis mon enfance. Tout ce vaste univers n'est rien aux yeux de Dieu, aux yeux de la foi, en comparaison d'une âme. Une seule âme vaut tout l'univers. Et on tue nos enfants. On les jette à la poubelle avec leur âme. Quelle tristesse. Aussi bien, Mère Rivier va-t-elle être très vite, littéralement dévorée par le zèle du salut de tous. Elle admettait, là, elle reconnaissait très simplement, je n'ai pas les autres vertus, mais le zèle, là, je crois l'avoir. Dieu veut se servir de la misère pour faire du bien. C'est une drôle de parole, mais oui, la misère des gens autour de nous, on va vers eux, on les serre dans nos bras, on fait du bien, ils deviennent meilleurs. Et s'il n'y avait pas cette misère, on resterait à garder la télévision et on mourrait devant nos télévisions. Sa grande sympathie à Mère Rivier, ça va pour Saint-François-Xavier. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Disait François-Xavier. Et pour Saint-François-Régis, c'est pas surprenant qu'elle les aime. Elle se sent de leur race. Lorsqu'approche la fête, comme on dit, la Saint-Xavier, Mère Rivier en est malade, tellement elle vibre à l'unisson de ce grand missionnaire dont je vous ai déjà parlé. Elle va même jusqu'à dire avec une incroyable audace, « Si le bon Dieu voulait me mettre au ciel à présent, je lui dirais, laissez-moi plutôt me traîner à quatre pattes pour vous gagner des âmes. Ah, si je pouvais entrer un moment dans le ciel, comme j'en ferais sortir tous ces jeunes saints, Louis de Gonzague, Jean Berquemans et les autres. Hein, j'en ai parlé de ces jeunes saints jésuites qui sont morts très très jeunes, au début de la vingtaine. Et elle dit, j'irai au ciel donc pour qu'ils viennent gagner les âmes de Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Lorsque j'allais faire ma classe, en parlant des premières années où elle faisait l'école, lorsque j'allais faire ma classe, je tombais quelquefois de faiblesse le long de la route et j'étais obligé de m'arrêter pour reprendre mes sens. Et à peine pouvais-je respirer que je continuais mon chemin. Et souvent encore, il me fallait faire de nouvelles stations. Arrivé enfin au milieu de mes élèves, j'oubliais tout. Je ne pensais plus qu'à eux. J'étais tout entière à mon travail et j'avais à peine le temps de manger sur mes genoux la soupe que m'avaient préparé ces pauvres enfants. On vivait alors un temps de grand malheur. Hein. Marie Rivière aurait voulu se multiplier pour dire Dieu, pour dire l'amour de Dieu. Et la voici donc faisant l'école. Elle réunissait les gens dans les églises sans prêtre. Elle prêchait aussi bien qu'un jésuite, disait-on d'elle. Aussi bien qu'un jésuite. J'espère que les jésuites prêchent encore très bien. Elle organisait des retraites. Elle formait celle qu'elle a charmée et qui s'attache à la suivre, à la vie en Dieu, des jeunes femmes qui devenaient des sœurs de la présentation. Sa congrégation et sa vie, hein, continuelle préoccupation devant Dieu. Elle disait, l'amour que j'ai pour mes filles m'est un martyre. Quand on aime beaucoup, ça brise le cœur. Hein. Ah, comme c'est merveilleux de la voir en transe devant la croix pour le salut du monde, pour les petits, pour que ces filles sortent décidément de leur timidité, de leur calcul, de marchande d'âge aussi, pour se jeter dans le feu comme elle. Elle disait, mes enfants, je veux vous mener tout en paradis. Je crierai pour vous vers Dieu comme une folle. Alors on la voit élevée de deux pans à un moment donné au-dessus du sol dans sa chambre. Comme Sainte Thérèse d'Avila, comme Saint Jean de la Croix. Et encore, selon la coutume du Moyen-Âge, des fois que l'on trouve aujourd'hui encore en Pologne, puis on faisait ça moi quand j'étais jeune, couché sur le dos, les bras en croix et regardant le ciel. Et elle disait, le zèle des enfants de Dieu doit être comme l'avarice, dévorant, insatiable. Tant que nous saurons qu'il y a un coin de terre où Jésus n'est pas connu et aimé comme il doit l'être, nous n'aurons pas le droit de rester en repos. Et elle disait, je souffre toujours plus de savoir tant de paroisses où il n'y a personne pour montrer le chemin du ciel à tant de pauvres enfants qui se perdent. Que ne sommes-nous assez pour faire connaître et aimer le Seigneur partout? Que ne pouvons-nous embraser tous les cœurs de son amour? Brûlons d'ardeur. Et elle disait cette phrase merveilleuse, « On n'aime pas mon Dieu ». Alors le zèle de Marie Rivière, tout comme celui de Saint-Dominique, s'étend même jusqu'à tout ce qu'on pourrait imaginer, jusqu'au dernier de l'enfer. Elle dit, je peux vous assurer que je voudrais aller faire la classe, même en enfer, aux démons et aux damnés, s'il était possible de les convertir et de les gagner à Dieu. Elle n'y va pas de main morte. Cependant, Mère Rivière ne peut se contenter de parler du ciel, de Jésus-Christ, de notre Sauveur, de l'Évangile. Elle ne peut pas se contenter de ça. Même si elle le fait très bien et avec force et onction comme un missionnaire, dit-on. Il y en a même qui disent, elle parle comme un prophète. Toutes les personnes qui l'ont entendue s'accordent pour dire qu'elle avait une clarté, une énergie, une onction qui touchait, qui ravissait, qui ébranlait son auditoire. Partout où elle passait, on la suppliait de parler de Dieu. Et elle le faisait toujours avec le même succès. Et que dire de ses entretiens quasi quotidiens à ses sœurs, de ses lettres, de ses écrits? Elle disait, « J'ai faim, mes enfants, du salut de vos âmes. J'ai faim du salut de vos âmes. » Depuis longtemps, cependant, elle a saisi la puissance et la nécessité de la prière, accompagnée de cris et même de larmes, mêlées aux cris de celui qu'elle appelle l'agneau de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui éclaire et touche les âmes, tandis que je leur parlerai. Pour moi, je ne suis capable que de tout gâcher. L'une de ses confidentes, sœur Sophie, nous éclaire. Elle dit « Mère Rivier m'a souvent dit, je n'oserais pas faire une instruction sans m'y être préparée et sans avoir prié. Je puis dire que je ne parle jamais, ni aux gens, ni aux sœurs, ni aux novices, sans avoir réfléchi et prié. La Sainte Messe, le rosaire, le chemin de la croix, les prières aux anges et aux siens et aux saints, voilà ce qu'elle appelait ses moyens tout-puissants. Des moyens ordinaires, c'est sûr, c'est certain, mais ces moyens sont noyés dans l'amour de son Dieu. Ah, disait-elle un jour, si nous avons obtenu ce que nous désirions, je sais ce qu'il m'en a coûté, de prières et de rosaires. Ou encore, elle disait, il faudrait prier jour et nuit pour la conversion du monde. Ah, que je voudrais avoir une maison pleine d'adoratrices. Pleine d'adoratrices. Il me semble que pendant que les unes travailleraient, d'autres seraient des Moïse. Elles attireraient toutes les bénédictions du ciel. Elles attireraient toutes les bénédictions du ciel sur leurs travaux. Depuis la fondation de la maison de la présentation de Marie, je me suis convaincu de jour en jour que l'on ne peut rien sans la prière. Tout ce qui s'est fait jusqu'ici a été arraché au ciel à force de prier. Dieu m'a donné par la prière la plus grande foi depuis ma plus tendre enfance. C'est la prière qui donne la foi. Ça ne se gagne pas tout seul. Ça se gagne comme ça. Je ne m'étonne donc pas qu'elles veulent faire de ses sœurs, de toutes les filles du temple, des adoratrices, des filles du ciel. Mais il faut aller plus loin dans la configuration de Mère Rivier au Christ. On ne peut être invité à continuer son œuvre de salut sans être convié à boire aussi son calice. On l'a vu, hein? La bienheureuse Marie Rivier a été marquée par la souffrance dès le 16e mois de sa vie. Et si la puissance du Seigneur a fait merveille, si Dieu l'a rendu capable de mener une vie débordante d'activité qui était la sienne. La guérison ne signifie nullement la disparition de la croix. Hein, Mère Rivier, toute sa vie invitée à la suite de la femme de la chapelle de la Sainte Vierge à porter dans sa chair les stigmates du Sauveur. Elle ne refusera pas, et bien au contraire, elle dit « Je veux m'incarner dans la souffrance ». Pourtant, Dieu sait, si depuis toujours son caractère est enjoué, pourtant heureux, elle aime la vie. Hein? Elle a un art consommé pour répandre la joie autour d'elle. On aime répéter ses réflexions remplies d'humour, qui ne pouvaient pas ne pas dilater les âmes et les corps. Elle disait « Pour l'amour de Dieu », elle écrit ça à une de ses filles, c'est extraordinaire de la part d'une sainte. « Pour l'amour de Dieu, nourrissez-vous bien, ne travaillez pas trop. Si votre compagne mange peu, je veux que lorsqu'elle pliera sa serviette, qu'elle aura fini de manger, vous étendiez bien votre serviette et que vous mangiez tout à votre aise, jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. À une autre sœur, elle dit « Vivez donc dans la joie du Seigneur et tenez-vous donc dans la paix. Prenez du repos, égayez-vous. Faites-vous du bon sang et engraissez-vous un peu pour me faire plaisir. » Elle va être bien maigre. Elle ajoute, « Quand je viendrai vous voir, nous rirons bien. Vous êtes bien bonne d'avoir gardé la pauvre dinde pour mon arrivée. Je ne voudrais pas la faire attendre trop longtemps. » Elle aime bien manger de la dinde. Bon, c'est un fait, Marie Rivière a épousé la croix parce qu'elle lui est apparue comme la porte et le chemin du ciel pour elle et pour le monde dont elle se sentait responsable. Elle a dit, « J'ai pensé que la croix était un signe de victoire. » Elle parlait probablement d'elle-même, d'ailleurs. Sans d'ailleurs le chercher, lorsqu'elle écrivait à une de ses filles, extrêmement tourmentée, « Je vois que beaucoup de saints, grands contemplatifs, sont restés toute leur vie dans le combat et dans un état infernal, comme vous dites, quoiqu'ils vivent une grande raison, et sans cela, ils se seraient peut-être perdus. Hein? » Marie Rivière a connu des années durant l'ennui, le dégoût et la peur. Elle dit « On ne peut pas se faire une idée des douleurs que j'endure jour et nuit. Mon existence est un prodige. » que je ne puis comprendre moi-même. Marie Rivier confiait à une sœur terriblement tourmentée, « vos tentations, je les ai toutes connues. » Imprudemment, peut-être, elle avait dit, « Je veux m'incarner dans la souffrance, hein, et Jésus lui a fait l'honneur de l'associer à son grand mystère pascal que nous allons célébrer la fin de mars. Ceci peut expliquer la fécondité de sa vie. Madame Rivier, comme on l'appelle aussi, est morte comme Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, debout, accoudée sur sa petite chaise face à la fenêtre grande ouverte. Elle disait « Donnez-moi ma fenêtre, donnez-moi ma fenêtre !» Elle voulait mourir en embrassant le monde entier, ce monde écartelé et grandiose qu'elle aimait passionnément. C'était le samedi 3 février 1838. Elle allait avoir 70 ans. Oh, elle avait à peine 69 ans. Elle rejoignait près de Dieu 56 filles de la présentation, puis elle en laissait 300 qu'elle avait envoyé dire Dieu dans une quinzaine de diocèses. En 42 ans, elle avait fondé 141 maisons. Plus de 20 ans auparavant, elle s'était écriée « Un jour, mes filles traverseront les mers. » Or, aujourd'hui, elles sont là par tout le monde. Elle aimait dire « Mettons-nous ensemble, soyons des saints, des apôtres, des vrais disciples de Jésus-Christ. » Elle a été béatifiée le jour de Pâques 1982. Savez-vous avec en même temps que qui? En même temps que le frère André, puis en même temps que Marie-Rose Durocher, fondatrice des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Mon cher Marie Rivier, comme on vous aime quand on vous connaît. Que vous êtes merveilleuse. Je ne saurais trop recommander aux gens qui veulent mieux vous connaître de lire Une flamme de feu, un petit livre du père Louis-Albert Lassus, L-A-2-S-U-S, d'un profil spirituel de Marie Rivier. Un tout petit livre, superbe, très 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 beau, publié en 1994. Une flamme de feu.